Marché en main, l'économie mondiale à la portée de chacun.
Chers auditeurs et auditrices de Spoutnik Afrique, bonjour. Ici Quentin Brachet, journaliste et animateur de votre émission Marché en main, qui vous apporte des éléments de compréhension de l'économie mondiale. Dans cette édition, nous reviendrons sur l'avancement des projets économiques entre Moscou et les pays africains. Après le sommet Russie-Afrique de l'été dernier, Moscou et le continent ont atteint un niveau de coopération sans précédent dans des secteurs aussi divers que le nucléaire, les hydrocarbures, mais aussi les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, tout en dédollarisant leur commerce. Pour esquisser un premier portrait de cette coopération de haut niveau, j'aurai l'honneur de recevoir le docteur Yacinthe Wenlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur burkinabé. A tout de suite. Longtemps traité comme un continent à la marge du développement mondial, l'Afrique affiche désormais des perspectives économiques colossales. Sa population devrait atteindre les 1,7 milliard d'ici 2030 et entre 2,2 et 2,7 milliards d'habitants en 2050 selon les projections de l'ONU. Le marché continental devient donc une réserve de consommateurs et de main-d'œuvre comparable à ce que l'Asie a représenté à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Plusieurs pays africains affichent déjà des croissances économiques montrant un développement en cours. Sur les 10 dernières années, l'Éthiopie et la Libye ont eu une croissance moyenne de plus de 8%, le Rwanda et la Guinée d'environ 6%, et la RDC, le Niger, la Somalie et la Tanzanie de plus de 6%. L'objectif de la Russie de multiplier ses débouchés et ses amitiés dans la perspective d'un monde multipolaire s'oriente en toute logique vers l'Afrique. Pour les 9 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux russo-africains ont augmenté de 40% par rapport à la même période de 2022. Le volume de ce commerce reste cependant très inférieur, par exemple, avec celui de la Russie avec la Chine. À moyen terme, Moscou espère au moins doubler ses échanges avec l'Afrique. En plus de la sécurité et des denrées alimentaires, les secteurs clés qui permettront cet envol sont les hydrocarbures, l'exploration géologique, l'énergie atomique, l'industrie chimique, les infrastructures au sens large, habitats, ports maritimes, routes, chemins de fer, pipelines, etc., mais aussi la construction automobile, l'agriculture et la pêche. Quels sont les enjeux du commerce russo-africain et quels projets sont entrepris pour relever le défi de la croissance des échanges? Pour apporter des éléments de réponse à ces questions, je vous présente le docteur Yacinthe Wenlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nasi Bonibobo au Burkina Faso, membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie et du rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. L'été dernier s'est tenu le sommet Russie-Afrique où beaucoup de promesses ont été faites. Quel premier bilan peut-on faire de l'avancement des projets économiques russo-africains?
Depuis la succession de ce sommet, depuis le dernier sommet, et avec aussi la bonne foi des dirigeants russes, et avec l'intérêt manifeste de la Russie pour l'Afrique, on voit que les choses avancent. Mais il faut dire que les choses doivent aller plus vite parce que les populations aujourd'hui, les Africains ont de grandes attentes vis-à-vis de la Russie, avec la rupture qui s'impose dans de nombreux pays, comme les pays donc des pays comme le Burkina, le Mali et le Niger, avec donc la distance prise avec les alliés traditionnels. Du même coup, il y a un vide qui est laissé que la Russie doit impérativement occuper pour que les échanges puissent continuer. Les attentes sont nombreuses et en tout cas la Russie est attendue. Les promesses faites, il y a de fortes attentes et il faudra qu'à ce niveau, on sente plus la présence de la Russie dans ce domaine, donc des relations bilatérales, multilatérales ou des échanges commerciaux entre la Russie et puis l'Afrique.
La Russie a récemment accueilli le Forum Atom Expo. Dans le domaine du nucléaire, de nombreuses coopérations avec des pays africains ont été lancées ou poursuivies. L'une des plus connues est bien sûr la construction de la centrale nucléaire d'El Daba en Égypte. Quel projet devrait bientôt se matérialiser dans ce secteur?
Effectivement, il y a de nombreux engagements. Et je pense, à mon sens, que ce domaine du nucléaire est très capital parce que rien que le domaine de l'énergie, vous savez que l'énergie est le cœur du développement dans notre monde actuel. Sans énergie, le développement est impossible. Et on sait que l'Afrique fait face à un déficit de production énergétique, malgré l'abondance des centrales nucléaires, des sites d'énergie solaire et d'énergie éolienne. Le déficit est toujours criard. Et l'énergie nucléaire est une alternative pour compenser le retard de l'Afrique dans la production énergétique, pour donc permettre à l'Afrique d'assurer son auto-développement. Parce que ce soit le développement industriel, le développement donc de l'agriculture, du secteur agro-pastoral et l'éducation, les domaines de santé, d'éclairage public, voilà, de production d'eau, voilà, à tous les niveaux, parce que l'Afrique a tellement de nappes souterraines. Et pour même puiser cette eau-là, il faut aussi de l'énergie. Le plus souvent, le côté vers lequel on se tourne, c'est l'énergie solaire. Mais le nucléaire vient quand même vient suppléer, vient donc combler un vide assez important. Donc, je crois que au-delà de ce produit de l'énergie pour des secteurs essentiels, cette énergie va aussi permettre le développement, pas seulement des grandes villes, mais des localités avancées, que ce soit en Égypte, que ce soit en Afrique subsaharienne, où le déficit en énergie est très criard et c'est vraiment un secteur qu'il faut développer et les attentes sont nombreuses.
Sur un autre plan, la Russie a déjà démontré qu'elle pouvait proposer de grands projets en matière de sécurité et d'armement. Les pays de l'Alliance des États du Sahel sont en première ligne pour coopérer avec Moscou. Quelles évolutions attendent de ce côté-là?
En matière de sécurité, effectivement, la Russie a fait montre d'une capacité donc, de solution quant à l'équipement, quant à faciliter l'équipement, l'acquisition donc, de matériel militaire, de matériel de contrôle et de renseignement. Et je crois que à ce niveau, la Russie, comme je l'ai dit, a fait montre d'une capacité donc d'aider, d'accompagner les États africains à trouver des solutions pratiques, des solutions immédiates pour donc non seulement renforcer leur sécurité, mais pouvoir faire face aux différentes menaces terroristes. Je crois qu'à ce niveau, s'il y a toujours quelle évolution attendre de ce côté-là, je dirais que l'évolution, c'est davantage permettre, faciliter l'acquisition de tout matériel, toute logistique. Voilà, parce que les procédures anciennes avec les partenaires classiques là, c'était les longueurs, les pertes de temps. Il y avait des lourdeurs administratives, diplomatiques. Il y avait donc de longues procédures qui faisaient que on pouvait perdre du temps dans cette acquisition, même si on a l'argent. Donc, avec la Russie, si on peut davantage faciliter cette acquisition, ce sera donc déjà donc une bonne chose. Rendre davantage l'accessibilité aux États de l'Alliance du Sahel, là, leur accessibilité au matériel militaire de dernière génération, parce que les terroristes aussi s'adaptent au fur et à mesure. Plus les États acquièrent du matériel de guerre, plus les terroristes aussi s'adaptent et la puissance elle monte de façon collégiale. Donc, ce que je pense ici, c'est que si la Russie peut davantage permettre l'accessibilité donc, de ces États-là à un matériel sophistiqué de dernière génération qui puisse être au-delà de l'équipement des terroristes qui travaillent donc à s'adapter au fil du temps. Deuxième élément, c'est pourquoi pas même penser au développement d'une industrie militaire de façon locale pour aussi que tout ne soit pas importé, mais que le matériel militaire, les questions de munitions, d'armes légères et des questions donc de tenue militaire, et la Russie peut appuyer ces États-là à avoir une industrie militaire locale qui soit de pointe et qui puisse permettre le ravitaillement local.
Quelle est la différence entre l'approche russe de la coopération économique avec l'Afrique et l'approche dont les pays occidentaux font preuve depuis longtemps?
Avec l'Europe, c'était donc des rapports à sens unique qui ne profitaient qu'aux pays occidentaux, aux métropoles et autres. Quand c'est comme ça, au fil du temps, c'est frustrant, c'est dénigrant et alors c'est même insultant. Mais avec la Russie, on sent le respect mutuel. On sent donc une position aussi de la Russie à faciliter avec le temps les transferts donc progressifs de technologies, donc des naissances d'industries dans bien de domaines, comme actuellement on voit avec donc l'énergie nucléaire qui est en vue, l'énergie photovoltaïque au niveau donc de l'Afrique du Sud et dans bien d'autres domaines. Voilà, donc c'est encourageant. Je crois qu'avec, par exemple, le Burkina Faso, il y a cette question donc d'industrie, de la mise en place d'une industrie automobile, les automobiles chargeables, les véhicules électriques et autres. C'est des choses avec l'Europe, on ne peut pas parler parce qu'ils veulent faire de l'Afrique la périphérie et eux, ils sont le centre. Et la périphérie qui est l'Afrique a le simple rôle de fournir la matière première au centre. Et ce centre que eux, ils constituent là, transforme les matières premières en produits finis ou semi-finis qui renvoient à la périphérie. Donc la périphérie qui est l'Afrique n'a de rôle que de fournir la matière première et de consommer les produits finis fabriqués donc ou transformés par le centre. Voilà pourquoi c'est frustrant et aujourd'hui les populations sont dans des frustrations légitimes, sont dans une exaspération parce que c'est un partenariat qui n'est pas profitable, qui est une forme d'exploitation. D'autres même parlent que c'est la perpétuation de l'esclavage ou donc de la traite négrière. Donc, les Européens, les Occidentaux ne sont pas favorables pour la diversification des partenariats. Ils parlent donc, c'est comme à l'époque coloniale où on parlait donc le régime de l'exclusif. C'est-à-dire que tant que ce n'est pas un pays proche de leur bord idéologique, un pays donc de leur ressort, un pays allié, ils sont réticents. Quand vous voyez les accords qui ont été signés depuis les indépendances, c'est des accords exclusifs qui réservent la part belle à la France et en tout cas aux pays occidentaux. Avec la Russie, on n'a pas cette imposition, c'est la liberté donc de traiter pourvu que à l'intérieur des accords, il y ait donc le respect donc des clauses.
À ce sujet, le président russe a récemment indiqué que la grande différence entre l'Occident et la Russie dans la coopération économique avec l'Afrique est que Moscou ne se contente pas de proposer des crédits à taux élevé via le FMI ou la Banque mondiale pour de simples projets de développement. Qu'en pensez-vous?
Oui, ce que le président russe, M. Poutine, dit est très fondé parce que les prêts, ce sont des aides empoisonnées. C'est des prêts convertis souvent en matériel. C'est des prêts convertis en matériel. C'est des prêts souvent dont les décaissements sont encore liés à de longues procédures. Ce sont des prêts liés à des conditions de démocratie, de bonne gouvernance. Et même cette question de démocratie, de bonne gouvernance, c'est pas que l'Afrique soit contre ça, mais ce sont des questions qui ne ressemblent pas à l'Afrique. C'est pas une démocratie ou une forme de gouvernance qui s'adapte à l'Afrique, mais c'est une forme de copier-coller. C'est comme si vous voulez imposer un modèle de gouvernance qui est étranger à l'Afrique et vous voulez que l'Afrique se soumette à ça. Donc, c'est des aides, c'est des prêts conditionnés, si bien que ça ne profite pas. Comme l'avait dit le président Sankara, il faut l'aide ou des prêts qui nous permettent de nous passer avec le temps de l'aide ou donc des prêts. Donc, ce que le président Poutine dit est vraiment très fondé parce que quand on passe avec la Banque mondiale ou le FMI, c'est endetter les générations futures pour donner un petit souffle d'espérance de vie aux générations actuelles. Donc, c'est une forme de dépendance continue. On s'enferme dans une dépendance continue, une dépendance qui se perpétue donc de génération en génération.
Les transactions entre la Russie et les pays africains sont désormais presque à moitié réalisées en roubles. Quelles autres monnaies nationales sont utilisées et quel est l'intérêt pour les pays africains de miser sur ces devises plutôt que sur le dollar ou l'euro?
Nous sommes dans un système de dédollarisation. Le dollar qui était donc ce gendarme mondial qui veillait donc sur les échanges et les conversions d'une monnaie à une autre là. De plus en plus, on est en train de trouver un système alternatif. Rien que la question des BRICS aussi est vraiment une solution à court terme pour davantage tourner la page du dollar mondial, pour donc aller vers d'autres systèmes plus adaptés et plus flexibles. Voilà. Maintenant, l'intérêt même qu'on a à ne pas passer donc par cette question du dollar, c'est échapper aux pressions internationales. Parce que quand on passe chaque fois le dollar, on prend l'économie pour en faire une arme politique, pour en faire un moyen de pression sur les politiques qui ne sont pas en accord avec la politique impérialiste qu'imposent les États-Unis et les pays européens. Donc, vous échappez à une arme politique de pression sur votre paradigme, votre vision sur le monde. L'autre fait, c'est éviter les longues procédures. Voilà. Les échanges peuvent se faire directement sans passer donc par les formats classiques de conversion de par donc le dollar. Donc, les longues procédures sont évitées, les blocages sont évités. Il y a aussi les taux élevés. Avec le dollar et autres là, c'est un moyen unilatéral. Ils fixent donc leur taux et tout le monde ne peut que se soumettre. Donc, les taux sont souvent très élevés et cela pénalise le commerce international, notamment donc les petits pays, les pays sous-développés, qui n'ont pas d'autre moyen donc que de souscrire donc à cette exploitation. Voilà. Et voilà, il y a assez donc de points qu'on peut citer qui prouvent l'intérêt des échanges directs entre les nations de par donc les monnaies nationales que les pays ont, telles que donc le yuan, tel que donc le rouble, voilà, et d'autres monnaies qui aujourd'hui sont des moyens alternatifs au système, au dollar ou à l'euro, qui depuis là s'imposent et qui exploitent, qui briment même les échanges internationaux.
Dans le domaine de l'agriculture, Moscou s'est illustré par ses livraisons gratuites de denrées aux pays dans le besoin. Quels autres projets ont été lancés pour développer l'agriculture africaine?
Je crois que c'est dans le domaine de la prospection, la recherche. La recherche au niveau donc de l'agronomie, la recherche agronomique, parce que l'Afrique fait actuellement face à des défis climatiques. Il faut des cultures adaptées au sol et au climat africain. Donc, je prends un pays comme le Burkina Faso. L'expérimentation actuellement est en cours pour des cultures qu'on ne faisait pas habituellement, qui étaient réservées aux pays côtiers, tels que le cacao, tels que le blé et autres. C'est des expérimentations qui sont concluantes et c'est aussi grâce au partenariat donc avec la Russie. Autre domaine, c'est surtout, par exemple, l'accroissement des fertilisants. On sait que déjà, la Russie approvisionne de nombreux pays donc en fertilisants. Et dans ce domaine-là, l'extension du partenariat ou son renforcement est aussi attendu. Je crois que la Russie s'est d'ailleurs engagée à ce que ces pays partenaires puissent davantage bénéficier donc de cet appui. Et je crois que à ce niveau, sans oublier, c'est vrai, il y a le côté appui en blé qui est déjà évident, mais toujours est-il que si la capacité de production de façon locale peut se faire, ça sera la meilleure option.
À ce titre, la Russie achète principalement des fruits et du cacao sur le continent. Quels autres biens pourraient intéresser le pays?
C'est des produits tropicaux tels que le coton, tels que le soja, tels que l'arachide. Et au niveau des fruits, il faut mettre un accent particulier au niveau donc des mangues, c'est très important. Et des pays, en tout cas la plupart des pays africains, c'est des pays donc qui produisent les mangues, surtout l'Afrique occidentale. Et il y a aussi des produits qui sont une particularité africaine, c'est le karité. C'est vrai, c'est des plantes qui étaient sauvages, mais qu'on est en train de domestiquer au fur et à mesure, des plantations de karité et autres là. Et ça aide à la fois à la production du beurre, mais aussi à la production d'autres produits de consommation, tels que les jambons, tels que les chocolats et autres.
Le secteur de l'industrie chimique et de la métallurgie est de plus en plus souvent évoqué comme axe de développement des échanges. Ce commerce concerne particulièrement le Maghreb et l'Afrique du Sud. Quelles perspectives offre ce secteur pour le commerce russo-africain?
C'est vrai, l'accent est mis actuellement sur le Maghreb et l'Afrique du Sud, mais est le reste de l'Afrique, l'Afrique centrale avec ses ressources minières, l'Afrique occidentale avec ses ressources minières, ses ressources en gaz, ses ressources donc en pétrole. C'est vrai que la Russie elle-même livre le gaz à l'Europe, mais toujours est-il que des réserves de gaz et autres là en Afrique, ça peut aussi donc intéresser donc la Russie. Ce que je peux dire, c'est que dans le domaine de l'industrie chimique et sidérurgique, avec donc les réserves que nous avons, les réserves, quand vous prenez par exemple là, des pays comme le Niger, le Mali, le Burkina, ont des réserves abondantes en termes de phosphate, en termes de calcium, en termes donc de sodium. Quand vous prenez par exemple ces mêmes pays-là sont des réserves abondantes, même quand on parle du Nigeria, l'Afrique centrale, c'est des pays qui ont des grands gisements de métaux, de matières premières, des métaux précieux. Voilà, l'or, quand vous prenez par exemple le fer, le plomb, tout cela peut intéresser l'industrie sidérurgique. Et quand je parle de phosphate et puis donc de sel là, et autres là, ça peut aussi donc intéresser le calcaire et autres là, ça peut intéresser l'industrie chimique. Je crois qu'il y a de belles perspectives et si la Russie s'intéresse, je crois que des partenariats sérieux peuvent être donc tissés et cela va participer aussi au développement. Et même cette industrie peut aider localement, c'est-à-dire la Russie peut travailler à l'implantation d'industries sidérurgiques ou chimiques de façon locale. De façon locale, ça va aider donc au développement de l'agriculture. L'industrie chimique va certainement aider au niveau des intrants, au niveau donc des fertilisants, au niveau donc de l'agriculture. On va avoir donc un bond significatif qui peut intéresser l'exportation vers la Russie. Je parlais tantôt de tous ces produits, coton, soja, arachide et autres là. Voilà, ça peut être les retombées d'une industrie chimique de pointe. Et quand on parle d'industrie sidérurgique, on peut avoir des industries développées localement ou exporter la matière première vers la Russie pour développer cette industrie sidérurgique. Je crois que l'Afrique jusqu'à présent importe la plupart des véhicules, la plupart donc des véhicules, les véhicules automobiles, la plupart des motos, des engins agricoles et autres là, engins de transport, les engins lourds pour l'industrie minière. Je crois que si la Russie travaille à renforcer l'industrie sidérurgique dans ces pays-là, on trouve rarement de pays en dehors du Maghreb, l'Afrique du Sud, un peu le Nigeria, où l'industrie sidérurgique est développée. Donc la Russie peut être vraiment un partenaire sûr dans ce domaine-là. Et ça va profiter aux pays africains qui vont réduire drastiquement leur importation de produits sidérurgiques au profit donc des industries locales qui seront implantées avec l'appui de la Russie. Ça sera donc profitable pour la Russie et pour les pays africains.
Dans quels autres domaines l'Afrique peut-elle bénéficier de la coopération avec la Russie?
Les autres domaines qui peuvent intéresser la Russie, l'Afrique a des terres arables en abondance. La Russie peut travailler donc à développer l'agriculture de l'Afrique. Sur place, je crois que de par l'industrie chimique dont j'ai parlé, et de par aussi l'industrie sidérurgique, les deux d'ailleurs, pendant que l'industrie chimique fournit les fertilisants et autres, les engrais, les intrants, les pesticides et autres, l'industrie sidérurgique se charge de la fabrication d'engins agricoles et d'engins de transport. Je crois que l'un dans l'autre, ça va développer l'agriculture et ça peut être exporté maintenant vers la Russie s'il y a du besoin ou vers d'autres pays du reste du monde ou même vers d'autres pays africains. Il y a le domaine des ressources minières dont j'ai parlé aussi. Voilà, l'Afrique regorge de nombreux gisements donc d'or, de manganèse, de cuivre, toutes ces matières premières là, on les retrouve en Afrique. Il y a le bois, voilà, il y a le bois. L'Afrique dispose encore donc de forêts denses, de forêts incultes dont l'exploitation peut alimenter l'industrie du bois. Il y a le domaine du textile, de l'agroalimentaire. Le domaine automobile, il y a tellement de secteurs. Voilà, même quand on prend l'industrie militaire, c'est un secteur qui peut être développé en Afrique, permettre donc à l'Afrique d'avoir des industries militaires où se fabriquent divers types d'armes pour la sécurité. Je crois que ça sera profitable aux États africains.
Une autre tendance qui a commencé à se dessiner l'année dernière est celle d'une augmentation des flux touristiques. Vers quelles destinations doivent se concentrer les nouvelles lignes aériennes ?
Je crois que les lignes aériennes, toute l'Afrique, c'est vrai, toute l'Afrique vraiment, on a un défaut de couverture de l'ensemble de l'Afrique. Même les pays qui semblent les plus nantis, comme le Maghreb, le Nigeria, l'Afrique du Sud et autres, là, c'est pas vraiment intense. Et le réseau aérien, le transport aérien a besoin en Afrique d'un véritable développement, j'allais dire d'une véritable révolution. Et la Russie peut être un partenaire sûr dans ce domaine, révolutionner le domaine des transports, du transport aérien en Afrique. Jusqu'à présent, vous prenez des pays où les gens se focalisent plus en dehors de la République du Congo, où les conditions climatiques ne sont pas favorables. L'Afrique centrale, où les conditions climatiques et géographiques ne sont pas favorables au transport terrestre. La plupart des Africains préfèrent encore voyager avec le train et surtout avec l'automobile. Donc, je crois qu'il faut renforcer les destinations, les lignes aériennes là, entre les différentes parties du monde et l'Afrique. Ça a renforcé. Quand tu prends les pays de l'AES ou même... il n'y a pas tellement de concurrence comme ça parce qu'il n'y a pas assez de lignes. Voilà. Et quand on prend en dehors donc de l'AES, le reste de l'Afrique, il faut renforcer les lignes entre les autres parties du monde et l'Afrique. Que les lignes soient intensifiées depuis l'Asie vers l'Afrique, depuis l'Europe vers l'Afrique, depuis l'Amérique vers l'Afrique. Et en plus de ça, j'allais même dire particulièrement entre la Russie et l'Afrique, comme le partenariat est en train donc de s'intensifier, intensifier les lignes, ça sera favorable, profitable à cette politique qui est en train d'être déballée. Et même à l'intérieur aussi de l'Afrique et des pays africains, il faut intensifier les lignes des capitales, entre les capitales des États africains, mais aussi et surtout entre les capitales des États africains et d'autres villes.
Plus largement, Moscou a annoncé que de nombreuses ambassades seront ouvertes prochainement dans des pays africains. Sait-on dans quel pays et quel impact peut avoir l'ouverture d'une ambassade sur le commerce de la Russie avec le continent ?
Je crois qu'avoir des ambassades, ça va permettre la visibilité, la promotion donc, de la civilisation russe, la promotion donc, des valeurs défendues. Et c'est un moyen donc, de promouvoir, de rendre visible. Voilà. Et aussi de mettre en place des activités favorables aux échanges commerciaux, favorables donc au développement de la culture, des politiques qui participent aussi d'informer le monde, de donner la vraie information sur la civilisation russe. Je crois que les ambassades sont des entités indispensables pour l'implémentation de la politique étrangère d'un État. Voilà, donc... je crois que plus la Russie en aura en Afrique, plus elle pourra se positionner, plus les gens pourront se tourner vers ces ambassades-là. Déjà, je vois l'ambassade des pays comme le Burkina en ont déjà bénéficié. Et la maison russe au Burkina fait un travail excellent. Et ceux qui sont là, les diplomates qui sont là déjà travaillent. J'ai déjà participé à des conférences que moi-même j'ai animées avec des experts russes, souvent pas des vidéoconférences, où c'est... on montre l'importance de traiter avec la Russie parce que depuis l'histoire, depuis donc l'époque coloniale, en passant donc par les guerres mondiales et la lutte pour la décolonisation, la Russie a toujours été du côté donc des États africains, des États opprimés. Donc je crois que tout ça, les ambassades permettent de rétablir la vérité historique et de permettre donc aux populations de savoir que il y a le blanc occidental impérialiste qui diffère du blanc de l'Est, qui est donc les Russes, et les politiques diffèrent parce que ce n'est pas la même politique d'oppression. Voilà, les politiques donc de traitement d'égal à égal. Donc, il y a tellement d'atouts que présentent les ambassades. Je crois que cette dynamique sera vraiment profitable, favorable à la politique étrangère de la Russie.
C'était le docteur Yacinthe Wendlarima Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'université Nasi Bonibobo au Burkina Faso, membre du groupe d'initiative pour la refondation de la patrie et du Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Avec son expertise, nous avons pu dresser un premier bilan de l'avancement de la coopération économique entre la Russie et les pays africains. Ainsi s'achève cette édition de Marché en main de Spoutnik Afrique. Nous nous retrouverons prochainement pour s'entretenir avec d'autres experts et suivre l'actualité de l'économie mondiale. D'ici là, bonne journée et bonne écoute.